Migration des Français en Amérique du Sud. Première partie, Pigway.
Cantecusterum, los esclops. Canterun, nous, faz jo flico flaco, luz esclops. Canterun, nous, sin sous, de tazos, luz esclops. Canterun, nous, sin sous, de bato, y luz esclops. Canterun, nous. Eu lui cambieri, luz esclops. Canterun, bielz.
Le 16 octobre 1872, le Belgrano quitta le port du Havre, emportant à son bord 1100 mètres cubes de marchandises et 450 passagers, pour la plupart des immigrants italiens. Il avait à peine 5 mois et demi, et ses nouveaux propriétaires, la Société de Navigation des Chargeurs Réunis, avait tout juste 8 mois d'existence.
C'était le premier voyage du premier bâtiment de cette jeune compagnie.
Le navire battait pavillon blanc avec 5 boules rouges, une à chaque angle et une au milieu, boule qui figurait les 5 continents.
Preuve de la détermination des chargeurs réunis d'embrasser les mers du globe.
De Louis XIV, dénomination avec laquelle les paquebots sortis des chantiers de l'océan de Le Havre Gravilla, il devint
le Belgrano, un hommage à Manuel Belgrano, né en 1770, décédé en 1820, général, avocat, homme politique, l'un des principaux artisans de l'indépendance argentine et créateur du drapeau national.
Fier paquebot, son destin fut étroitement lié au destin des émigrants qu'il transportait de l'Europe vers l'Amérique du Sud. Car 3 ans après, en 1875, la Compagnie des Chargeurs Réunis obtint officiellement du gouvernement français le droit de réaliser des transports de migrants.
Cantecusterum, luz esclops.
12 ans après son premier voyage, le 25 octobre 1884, alors que Belgrano avait appris à connaître les vents, les eaux, les poissons et les oiseaux de l'océan Atlantique, il reçut sur son pont 162 Aveyronnais, couples, familles et enfants, quelques célibataires et un prêtre, ainsi que 200 et quelques Espagnols.
Destination ?
Argentine. Ici commence notre série
Migration des Français en Amérique du Sud.
Première partie, Pigway, l'histoire des Aveyronnais devenus gauchos.
Racontée par une gauche devenue aveyronnaise. Hasard, c'est lui qui fait très bien les choses, réunit à Buenos Aires, le 1er juin 1882, deux hommes remarquables.
Clément Cabanet
et
François Issali.
Monsieur ?
Monsieur.
Tout partit donc de la conversation derrière cette porte. Ce fut dans ce bureau de l'Union téléphonique de Buenos Aires, ce 1er juin 1882, que les destins d'une population aveyronnaise furent tracés.
Passionnant, mais pourquoi donc l'Argentine ?
Laissons parler l'histoire. Faisons une incursion rapide dans le passé. Depuis que la flottille de Christophe Colomb a mouillé dans les terres appelées plus tard les Amériques, ces terres sont rentrées dans l'imaginaire européen. Pour certains, dont les jésuites, elles représentaient l'Éden promis. Pour d'autres, des esprits aventuriers, elles représentaient l'Eldorado si recherché. L'enjeu fut tellement important que le 7 juin 1494, à peine 2 ans après l'arrivée de Christophe Colomb en Terre Nouvelle, les rois de Castille et du Portugal s'y réunirent à Tordesillas, en Espagne, et mirent au point un traité qui diviserait l'océan Atlantique avec une ligne imaginaire tirée de pôle à pôle, 370 lieues, soit 1443 km à l'ouest des îles du Cap-Vert. Les terres qui se trouvaient à l'est de cette ligne revenaient au Portugal et les terres qui se trouvaient à l'ouest revenaient à la Castille.
Ce fut méconnaître la force d'attraction que ces terres exerçaient sur les rêves des peuples qui se sentaient déjà à l'étroit sur le continent européen.
Bravant les interdictions et sautant les frontières, des Portugais avançaient dans les terres et forêts espagnoles. Et de leur part, les Espagnols franchissaient des frontières et s'établissaient en territoire portugais.
Deux traités suivirent, toujours entre les couronnes espagnoles et portugaises, et toujours sous la bénédiction papale, et à deux reprises, les deux couronnes révisèrent leurs traités, les frontières étant complètement bousculées.
Portugais, Espagnols et bien d'autres occupaient des terres et délogeaient les autochtones, dans un système hors loi ou sans loi, car il était impossible aux deux couronnes d'installer des règles et de les faire suivre. Au début du XIXe siècle, les couronnes portugaises et espagnoles étaient tellement occupées par les avances des troupes napoléoniennes qu'ils ne pouvaient pas faire face aux conflits éclatés dans leurs colonies. En 1810, à Buenos Aires, éclata une insurrection contre la domination de la métropole, l'Espagne. Et un an après, les gauchos, nom désignant les habitants des campagnes de ces régions, vainquirent les troupes espagnoles. L'indépendance fut définitivement proclamée dans un congrès réuni à Tucumán en 1816 et un an après, en 1817, la République prenait les noms de Provinces Unies de l'Amérique du Sud, changeant encore plus tard par Confédération Argentine. Après l'indépendance, les provinces du littoral du Rio de la Plata, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios et Corrientes, se développaient et se peuplaient, alors que le sud s'y constituait dans une zone floue, allant vers la Patagonie, où la menace chilienne planait constamment.
Et la population?
Quelle population? La population créole? La population européenne, la population indienne.
Tu veux dire que c'était comme un Far West?
Oui, tout comme. Les Indiens, expulsés de leurs terres, poursuivis, trucidés, répandaient à la hauteur, incendiant les estancias, les fermes, tuant les habitants, kidnappant les femmes, volant les bétails qu'ils allaient vendre au Chili. Les fermiers se munissaient d'armes et essayaient de se défendre, non seulement des Indiens, mais également des bandits isolés ou en groupe, formés par des hors-la-loi créoles ou européens. Imaginez des immenses extensions de terre presque inhabitées. De l'herbe, des troupeaux sauvages, des animaux sauvages à perte de vue. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait peupler ces terres. D'autant plus que la conquête de ce sud aride et dangereux ne pouvait pas passer sans des guerres.
Des guerres? Qui? Contre qui?
De l'armée argentine contre les Indiens révoltés. C'était, disait-il, la civilisation contre la barbarie. Le temps de la colonisation était arrivé. Le temps de la conquête du désert était arrivé. Il fallait empêcher les Indiens de détruire les nouveaux peuplements qui s'installeraient.
Écoutez, écoutez ce que j'ai trouvé sur le site web Latitude Argentina. À partir de 1853, la Constitution intègre avec l'article 25 l'incitation à l'immigration. En 1876, la loi numéro 761, nommée la Ley de l'Emigración y Colonización, facilite et encourage l'immigration européenne pour ces vastes terres inoccupées et fertiles. Le gouvernement mandate donc des agences en Europe pour trouver des candidats à l'immigration. Les consignes sont précises. Des familles nombreuses, catholiques, pour un départ définitif. En échange, le gouvernement argentin offre aux immigrés 33 hectares de terre, 2 chevaux, 6 têtes de bétail, des semences pour la première année et un petit pécule.
C'est l'Eldorado pour les familles qui ne possèdent rien. C'est l'opportunité sans égale de construire ou reconstruire une vie.
D'accord, c'était donc ça la conversation de Cabanet et Isali.
Oui, exact.
Mais qui était-il ?
Clément Cabanet est né en 1851 dans le petit village d'Ambec, commune de Lassouts, près de Saint-Comdolt, dans les départements de l'Aveyron, bien sûr. Troisième d'une famille de 11 enfants, il fit ses études secondaires au collège d'Espalion, puis suivit des études au séminaire de Rodez. Il échangea, cependant, la soutane pour l'uniforme militaire et quitta l'armée à l'âge de 26 ans, avec le grade de sous-lieutenant de réserve. Il partit alors de Rodez et monta à Paris, où il fut embauché dans une agence du Crédit Lyonnais.
Et là, soudain, il apprit la nouvelle. Un envoyé du gouvernement argentin recrutait des jeunes officiers français d'active ou de réserve pour réorganiser l'armée argentine.
Il s'inscrit, fut accepté et partit.
François Isali est né le 20 novembre 1852.
Un an plus jeune que Cabanet.
Il est né à Poudan, qui se situe sur le territoire de la commune de Saint-Félix-de-Lunel, dans le canton de Conques. À l'âge de 7 ans, il gardait déjà tout seul un petit troupeau de brebis, avec 2 vaches et leur veau. À l'âge de 19 ans, il quitta sa famille pour aller servir de domestique dans une famille à Longagnac. Évidemment avec le consentement de son père, et ceci pour la durée d'un an. Fini ce contrat, il fut engagé à nouveau comme domestique pour un an dans la commune de Saint-Christophe-Vallon, canton de Rignac, en Aveyron. À l'âge de 21 ans, son nom fut tiré au sort et il fut reconnu bon pour le service militaire. Le 24 juin 1874, à l'âge de 22 ans, François Isali fut engagé dans l'armée française en qualité de soldat de la réserve de la classe de 1872 et fut incorporé au 81e régiment. Le 31 décembre 1874, il finit son service militaire et retourna à la maison. L'année suivante, il suivit une formation de charpentier, profession qu'il exerça quelques années, pour ensuite apprendre à faire marcher une scie hydraulique.
Écoutez comme sa façon de raconter est émouvante. Au mois d'octobre 1880, j'ai cédé à l'ardent désir qui, depuis mon enfance, enflammait mon esprit, me poussant de plus en plus et continuellement à partir de chez moi pour aller voyager. Je me résignais à partir de France pour aller en Amérique.
La boucle est bouclée.
Ils vont se rencontrer ?
Oui, Marie, mais pas aujourd'hui. Il faut patienter. La suite, vous l'aurez au prochain épisode. N'y ratez pas.
cante custerum, cante custerum, cante custerum, los esclops.
Vous venez d'écouter Migration française vers l'Amérique du Sud.
Première partie, Pigoué, l'histoire des Aveyronnais devenus gauchos.
Racontée par une gauche devenue aveyronnaise.
Émission enregistrée au studio de Radio Larzac. Texte Rita.
Régie et montage Marie. Voix
Marie,
Jean,
Rita
et Romain.
Nos sources, les livres.
Les Aveyronnais dans la Pampa, œuvre de la Fondation Développement et Vie de la colonie aveyronnaise de Pigoué, Argentine, 1884-1892, édition de 1993.
De l'Aveyron à l'Argentine, itinéraire d'un pionnier, chronique de la fondation de la colonie française aveyronnaise de Pigoué, d'après le manuscrit de François Issali, 1924, adaptation de Nanine Coste.
Nous avons cité aussi le site Latitude Argentine.
Canterun, 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 nos, canterun, 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 nos, sinsous, de tazos, sinsous, de tazos, sinsous, de tazos, luz esclops. Canterun, 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 nos, canterun, 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 nos, sinsous, de batos.
Merci à toute l'équipe. Merci à vous, auditeurs. N'oubliez pas. Prochain épisode, mardi 21 novembre à 19h. Soyez impatients.
Canterun, 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 nos, canterun, 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 nos, sinsous, de tazos, sinsous, de tazos, sinsous, de tazos, luz esclops. Canterun, 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 nos, canterun, 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 nos, sinsous, de batos, sinsous, de batos, sinsous, de bato, luz esclops. Canterun, 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 nos, canterun, 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 nos. Eu lui cambieri, eu lui cambieri, eu lui cambieri, luz esclops. Canterun, 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 biels, canterun, 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 biels, canterun, 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 biels, canterun, 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 biels.